France Inter. 7-10.
Et nous sommes le mardi 26 mars. Bonjour à tous, bienvenue sur Inter. Anaïs Feuga, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, Israël face à la communauté internationale.
Après l'adoption de la résolution de l'ONU hier appelant à un cessez-le-feu immédiat à Gaza, nous sommes à Jérusalem dès le début du journal. Les collectivités locales vont peut-être devoir se serrer la ceinture. On attend aujourd'hui le chiffre du déficit public pour la France. Un collectif anti-TikTok cherche à recueillir des témoignages pour obliger le réseau à ne plus exposer les mineurs à des publications nocives. Et puis, l'université forme ses enseignants aux enjeux climatiques.
Les invités d'Inter ce matin, 7h50. Bonjour Sonia De Villers.
Bonjour à tous. Comment sécuriser les établissements scolaires alors que le niveau du plan Vigipirate a été relevé? Les enseignants acceptent-ils les fameux groupes de niveau? Quelqu'un entend-il la détresse des profs et des familles dans le département de Seine-Saint-Denis? Nicole Belloubet, ministre de l'Éducation nationale, est mon invitée à 7h50. Les questions sont nombreuses.
À tout à l'heure, 8h20, le grand entretien de la matinale avec Pierre Moscovici, président de la Cour des comptes. 9h20, Léa Salamé reçoit aujourd'hui la comédienne Agathe Natanson.
France Inter.
Des bombardements tôt ce matin sur Rafah dans la bande de Gaza, là où 1,5 million de Palestiniens déplacés ont trouvé refuge. Il y a au moins 13 morts selon le Hamas. Réponse d'Israël à la communauté internationale qui, pour la première fois depuis le début de la guerre, réclame un cessez-le-feu. Résolution du Conseil de sécurité de l'ONU adoptée hier par 14 voix pour et une abstention, celle des États-Unis. Le texte exige un cessez-le-feu immédiat pour le mois du Ramadan, devant mener à un cessez-le-feu durable. Il demande aussi la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages. Bonjour Thibault Lefebvre.
Bonjour Anaïs, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant permanent à Jérusalem. Israël compte-t-il appliquer cette résolution ?
Non, il y a clairement peu de chance et ce n'est sans doute pas l'ONU qui arrivera à tordre le bras du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. La première raison, c'est que tous ces ministres, malgré leur division, sont sur la même ligne. Même Benny Gantz, l'opposant de l'intérieur le plus démocrate des membres du cabinet de guerre, a affirmé hier que l'adoption de la résolution des Nations Unies n'avait aucune signification opérationnelle pour son pays. La deuxième raison, c'est que l'État hébreu ne respecte pas les décisions de l'ONU. Depuis décembre 2016, Israël est sous le coup d'une résolution qui lui impose de mettre fin à la colonisation en Cisjordanie occupée. Vendredi dernier, 8 hectares de terre ont été saisis dans la vallée du Jourdain. C'est tout simplement la plus importante confiscation foncière depuis plus de 30 ans.
Et en parallèle, Thibault, les mots très durs de la rapporteuse de l'ONU pour les territoires palestiniens. Elle présente ce matin son rapport à Genève et évoque un nettoyage ethnique.
Oui, Francesca Albanese qui parle, je cite, de motifs raisonnables de croire qu'Israël a commis des actes de génocide à Gaza. Accusation balayée d'un revers de main par les États-Unis. Les Américains qui hier ont tenté de calmer le jeu avec leur allié israélien, peu de temps après le vote de la résolution de l'ONU. Ils ont fait savoir par une communication du département d'État qu'Israël respectait le droit international, que ce soit dans la conduite de la guerre ou la livraison d'aide humanitaire.
Thibault Lefebvre en direct de Jérusalem. La pression vient toutefois aussi de Donald Trump, dont on connaît les positions pro-israéliennes. Israël doit en finir avec la guerre, c'est ce qu'il a déclaré hier dans une interview. En Europe, le chef de la diplomatie de l'Union européenne insiste pour que la résolution soit mise en œuvre de manière urgente par tous.
Il est 7h04, c'est l'un des chiffres les plus attendus ce matin, Anaïs, celui du déficit public.
Oui, car du dérapage budgétaire de la France va dépendre de nombreuses mesures qui vont impacter la vie des Français, mais il devrait largement dépasser les 5%, en tout cas beaucoup plus que ce qui était prévu par Bercy. Concrètement, ça veut dire que si le gouvernement veut revenir sous les 3% en 2027, il va falloir trouver au moins 50 milliards d'euros d'ici là. L'exécutif refuse toujours d'augmenter les impôts. Il préfère réduire les dépenses au service des Français. On parle ainsi de couper dans les dépenses pour les affections de longue durée, les aides au cinéma ou encore réduire les indemnisations des chômeurs. Les collectivités locales, elles aussi, auront du mal à échapper au tour de vis, Simon Le Baron.
Tout le monde doit faire des efforts, tranche le rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale.
Le déficit est global pour notre pays. Il faut à la fois regarder l'État, évidemment, les collectivités territoriales et la Sécu.
Le macroniste Jean-René Cazeneuve estime que oui, ces collectivités peuvent tailler dans leurs dépenses.
Force est de constater que l'augmentation de leurs dépenses est supérieure au niveau de l'inflation, ce qui est un sujet.
Et ils ne sont pas nombreux dans la majorité à dire, comme le président du Modem François Bayrou, pas touche à leur budget. Le député de son parti Nicolas Turquois imagine même une prime à l'efficacité.
De mettre des critères pour mesurer l'action et l'efficacité de certains et de l'accompagner plus ou moins avec de l'argent public me semble pertinent plutôt que d'avoir une distribution a priori à chacun.
Des efforts, d'accord, répond le président socialiste de la région Bretagne, Loïc Chesnais-Girard. Mais attention à ne pas faire des élus locaux une cible facile.
Les collectivités, elles n'ont pas le droit au déficit, ce que souvent on oublie de rappeler. Et à partir du moment où nous n'avons pas le droit au déficit, nous avons gardé quelques capacités pour investir. Mais on ne peut pas dire que c'est l'opulence et la corne d'abondance dans les collectivités.
Des élus locaux bien décidés à rappeler au président de la République sa promesse, maintes fois répétée, d'aller au contraire vers une vraie décentralisation.
Et on revient bien sûr sur le déficit public avec la chronique écho de Dominique Seux et le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, votre invité Nicolas, oui. À 8h20. Le gouvernement qui a toutefois largement ouvert son portefeuille pour les agriculteurs, plus de 400 millions d'euros d'aide d'urgence et un allègement des contraintes sur les pesticides. Il en est question à Dunkerque, où la FNSEA, le principal syndicat agricole, est en congrès à partir d'aujourd'hui. Dans le même temps, les ministres de l'Agriculture de l'Union européenne se retrouvent à Bruxelles. Au programme, révision de la politique agricole commune et détricotage des normes environnementales, toujours pour tenter d'apaiser le secteur. La Commission propose de faire machine arrière sur les critères verts, comme l'obligation de garder 4% des terres en jachère, haies ou mares. Les agriculteurs se félicitent aussi du blocage de la législation de restauration de la nature. 16 ONG environnementales demandent à la Commission de revoir sa proposition qui risque de dégrader les écosystèmes et qui a été prise en quelques semaines sans étude d'impact. Et c'est donc dans ce contexte que la culture européenne du lin cherche à se faire une place, une culture de niche, certes, pour un monde durable. En France, des filières se sont reconstituées en Normandie, dans les Hauts-de-France et en Île-de-France. Agnès Soubiran.
En 10 ans, la production de lin européen a augmenté de 133% pour atteindre 140 000 tonnes de fibres par an, ce qui fait de l'Europe la première zone de production dans le monde. Et la France fournit les trois quarts de cette production européenne avec un succès grandissant.
À la fois, les consommateurs sont en demande de matières de plus en plus naturelles. Qu'est-ce que je porte au quotidien et comment est fabriqué mon produit ?
Chantal Malingré, porte-parole de l'Alliance pour le lin européen.
Le lin européen a la chance d'avoir l'ensemble de sa filière représentée sur cette fameuse bande de Caen à Amsterdam. De l'agriculteur jusqu'au tisseur sont en Europe.
Une traçabilité appréciée mais qui reste chère à produire. Le lin ne représente aujourd'hui que 0,5% des fibres fabriquées dans le monde. D'où la nécessité pour Julie Pariset, responsable innovation, d'imaginer des matériaux d'avenir.
En fait, il y a des projets aujourd'hui qui sont pour travailler sur des satellites qui intègrent de la fibre de lin parce qu'en cas de destruction, on arrive à ne pas avoir de débris. Et ça, pour le coup, de s'imaginer que le lin, quand on lève notre tête, est finalement dans le ciel, c'est quand même projeter une filière très très loin.
De la recherche enfin aussi pour trouver des variétés qui résistent mieux aux aléas climatiques, notamment au manque d'eau et aux températures en hausse.
La culture du lin présentée au salon Change Now, au salon des solutions pour protéger la planète, c'est au Grand Palais éphémère à Paris jusqu'à demain soir. Il se mobilise pour dénoncer les effets néfastes de l'algorithme de TikTok sur les plus jeunes. Un collectif a été lancé hier par une avocate et une association, Delphine Evenou, pour réunir dans un premier temps un maximum de témoignages et assigner ensuite TikTok en justice.
C'est une plainte en septembre dernier qui fait germer l'idée du collectif Algos Victima, celle de la famille de Marie, une adolescente de 15 ans qui s'est suicidée en 2021. Elle avait publié quelques jours avant une vidéo sur son mal-être, le harcèlement qu'elle subissait. L'algorithme de TikTok a généré automatiquement sur son fil un flot de publications sur le même thème, une provocation au suicide selon la plainte déposée contre le réseau social, première du genre en France, portée par l'avocate Laure Boutron-Marmion, fondatrice d'Algos Victima.
À la suite de ce dépôt de plainte, de nombreuses familles sont venues à moi, des parents meurtris, avec des enfants addicts aux réseaux sociaux, en grande dépression, en anorexie sévère, et ou en tout cas en multiples tentatives de suicide parfois, et donc avec toujours cette même question, maître, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut arrêter ça.
Une boîte mail est ouverte pour recueillir un maximum de témoignages de parents et de jeunes adultes. L'objectif est de former un recours groupé et d'obtenir des dédommagements et contraindre TikTok à modérer ses contenus et changer son algorithme pour éviter l'exposition des mineurs à des publications nocives avant de s'attaquer, promet l'avocate, à d'autres réseaux sociaux.
Et puis la défenseure des droits, dans son rapport annuel publié aujourd'hui, s'inquiète de la banalisation des atteintes aux droits. 10% de saisines en plus, crainte de manifester, difficulté d'accès des étrangers aux préfectures ou encore discrimination des plus précaires dans l'accès aux soins. Claire Hédon rappelle aussi que notre système n'est pas basé que sur les élections, mais aussi sur le fait que les pouvoirs publics sont soumis au droit.
Il est 7h10, journée cruciale pour Julian Assange.
Le fondateur de Wikileaks va savoir si la justice britannique lui accorde un dernier recours contre son extradition vers les États-Unis. Il y risque 175 ans de prison pour avoir publié des centaines de milliers de documents sur les opérations militaires américaines en Irak et en Afghanistan. L'Afghanistan, pourvoyeuse de djihadistes de l'organisation État islamique qui a frappé Moscou vendredi pour la première fois hier soir, Vladimir Poutine a reconnu que l'attentat revendiqué par Daesh avait été commis, dit-il, par des islamistes radicaux, mais il continue à sous-entendre que Kiev serait impliqué dans l'attaque. Lui assure que son pays restera l'allié sûr et fiable de tous les partenaires étrangers respectueux. Le nouveau président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, félicité hier soir par Emmanuel Macron, qui se réjouit, dit-il, de travailler avec lui. Parmi les projets du nouveau président, la renégociation des contrats pour l'exploitation d'énergies fossiles dès cette année au large des côtes. Les énergies fossiles et leur impact sur le climat, ça doit devenir un incontournable des études supérieures. À partir de 2025, les universités vont devoir renforcer l'enseignement sur les enjeux climatiques. Tous les élèves de premier cycle auront un socle commun de 30 heures sur la transition écologique, qu'ils soient étudiants en sciences sociales ou en sciences tout court. Alors, on forme les enseignants. Sandy Dauphin, vous avez d'ailleurs assisté à l'une de ces sessions en Seine-Saint-Denis.
La conférence aujourd'hui s'appelle « Habiter, se déplacer autrement ».
Dans cet amphithéâtre du campus de Villetaneuse, une fois n'est pas coutume, ce sont les enseignants qui écoutent face au tableau blanc et prennent des notes. Leur formateur du jour, Benoît Sanchez, mathématicien de l'association des citoyens pour le climat.
À peu près en France, l'empreinte carbone d'une personne, c'est 10 tonnes. Alors on va se focaliser sur deux colonnes, c'est le déplacement et le logement. Donc vous voyez déjà, rien qu'avec ces deux, on arrive à la moitié.
Transport, habitat, mais aussi énergie et biodiversité, 5 demi-journées de formation sur les bancs de l'amphithéâtre. Sylvie Borne, une enseignante en informatique.
Il y a toute une question qui se pose en informatique sur ce que ça a comme impact sur le climat, par exemple. D'envoyer des mails, des data centers qui quand même ont un impact climatique non négligeable. Et ça, c'est des choses que je ne connais pas, moi, encore, et qui m'intéresseraient.
Amida Hassine, elle, est enseignante en histoire. Jusqu'à présent, elle a rarement abordé la question du changement climatique, mais elle réfléchit à modifier ses cours.
J'ai une partie assez imposante de mon cours qui porte sur la révolution industrielle du 19e siècle. Justement, cette formation va influencer profondément ma manière de présenter les choses. C'est que je vais la rapporter aux problématiques climatiques et écologiques aussi.
À court terme, l'université Sorbonne Paris-Nord veut former 500 enseignants, soit un tiers de son effectif.
Un reportage Sandy Dauphin à l'université Sorbonne Paris-Nord. Favori de l'Euro, les footballeurs français rencontrent le Chili en match amical à Marseille ce soir. Feront-ils mieux que contre l'Allemagne, défaite 2-0, et mieux que les Bleuets de Thierry Henry, match nul 2-2 contre les États-Unis hier soir, qui seront les premiers adversaires des Français au JO.
Merci Anaïs Feuga. Dans 3 minutes, le Zoom. Aujourd'hui, c'est la suite de notre série de reportages au Rwanda 30 ans après, avec un couple qui traque les génocidaires exilés.